Bonsoir, cher Aude Lavigne. On vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Sophie Rosemont et Christophe Comte se font face. C'est une première pour Sophie Rosemont que je suis ravi d'accueillir dans cette émission. Pour sa première, à notre affiche à présent de Vincent Delerme, 22 A Million de Bon Iver et Choose Your Own Adventure des Vanishing Twins. Vers 21h20, nous suivrons Lucille Como dans le petit salon. Nous ferons gagner bien sûr des jeux, des cadeaux grâce au jeu de la dispute plus exactement. On peut faire gagner des jeux, mais on n'a pas... Si c'est arrivé, je crois. Là, ce ne sont pas des jeux, ce sont des places de cinéma à gagner pour le film Dogs de Bogdan Mirica qui est sorti hier sur tous les bons écrans. Et nous ouvrons cette émission avec le sixième album de Vincent Delerme en 15 ans de carrière, qui sera suivi d'une tournée, qui accompagne également trois livres de photographie chez Actes Sud. Ce soir, on va quand même s'intéresser avant tout à la musique pour un album intitulé « À présent », qui interroge forcément beaucoup le passé, ça on va en reparler. On écoute en guise d'extrait le dernier morceau de l'album « Le garçon ».
Qui devait regarder la route en voiture. Je suis le garçon qui n'a pas vu la guerre des étoiles. Je suis le garçon qui a demandé un autographe à Bruno Marie-Rose. Je suis le garçon qui faisait partie d'un groupe de Cold Wave. Je suis le garçon qui était ami avec Vincent Schmitt. Je suis le garçon qui a perdu un ami d'enfance. Je suis le garçon qui est parti vivre à Paris. Je suis le garçon qui a vécu métro Alésia, métro Barbès, métro Poissonnière, métro Belleville. Je suis le garçon dans la nuit sur le balcon de la clinique des Diaconesses. Je suis le garçon qui a déclaré un enfant à la mairie du 12e arrondissement. Je suis le garçon qui a déclaré un autre enfant à la mairie du 12e arrondissement. Je suis le garçon, celui qui vous aimait, sous la neige, à Beaumont.
Du piano, hein. L'utilité d'écouter au casque aussi, souvent, que l'on peut. Le garçon qui termine cet album qui s'intitule « À présent » et pendant que nous écoutions ce morceau, nous cochions une à une les cases. Christophe Comte, nous sommes le garçon.
Oui, nous sommes un peu tous les garçons réunis. Oui.
Alors, impression générale sur ce nouvel album de Vincent Delerme ?
Impression générale qui est un peu la mienne depuis quasiment les débuts avec Vincent Delerme. Pas tout à fait les débuts, parce que j'étais pas très très client du premier album que tout le monde a acheté. Alors, c'était peut-être par défaut. Mais depuis, c'est toujours quelqu'un, moi, qui m'a, qui m'a à la fois impressionné et en même temps qui reste quelqu'un de très accessible, qui est pas dans une chanson dont on pourrait dire qu'elle est intimide, parce qu'elle nous parle vraiment directement, il n'y a pas de filtre, et après on peut s'y reconnaître en fonction de ce qu'on a vécu dans sa jeunesse, de son milieu social, etc. Mais tout ça mis à part, ça reste quand même un disque où il y a encore une fois une option musicale assez, assez marquée, c'est-à-dire que ça fait deux albums que Vincent Delerme fait avec la paire Clément Ducol, Maxime Le Guil, qui lui ont apporté sur le précédent album un dispositif de piano préparé qui a induit un son qui était quand même très original, qui changeait de fait l'écriture de Delerme, sa façon aussi de chanter, si souvent décriée d'ailleurs, et dont on s'aperçoit finalement qu'elle est souvent caricaturée plus à travers les imitations de Vincent Gérard, de Laurent Gérard, que par le chant lui-même de Delerme. Et donc ce disque, là, prend un peu la même direction. À l'origine, c'est les mêmes, le même dispositif, sauf que cette fois-ci, on est dans un registre plus pop, on va dire, avec des cordes, avec quelque chose qui rapproche un petit peu plus du Delerme du deuxième album, où il y avait quelque chose de très anglais. Il y a un morceau, d'ailleurs, sur l'album, j'ai oublié le titre, qui s'appelle « Dans le décor », où on retrouve un peu ce côté Divine Comedy. Voilà, Vincent Delerme a fait un duo avec Neil Hannon. Ils sont assez proches. Et je pense qu'il y a un esprit comme ça, un peu commun, de ces gens qui travaillent sur une matière un peu désuète, qui sont dans des formes parfois de chansons dont on peut dire qu'elles n'appartiennent plus au monde moderne. Mais en même temps, vu que ce qu'ils racontent non plus, il y a une sorte d'adéquation entre sa chanson, sa manière d'écrire, et sa musique. C'est pas quelqu'un qui va aller jouer avec des instruments, il va pas prendre un autotune pour faire le malin. Il reste dans un format, dans une interprétation assez classique. Et là où ça devient assez impressionnant, c'est qu'après 6 albums, et dans un périmètre qui paraît comme ça assez étroit, Vincent Delerme arrive quand même à chaque fois à nous saisir, quoi. C'est-à-dire vraiment, il y a des choses absolument bouleversantes sur cet album qui est très intime, où il raconte pas mal de choses de lui-même, avec des nuances qui sont plus universelles. Il y a deux choses. Il y a ce morceau qui s'appelle « À présent », donc aujourd'hui, où il dit nous sommes, et le nous sommes renvoie au je suis Charlie. Enfin, il y a quelque chose de ça. Et puis il y a aussi je ne veux pas mourir ce soir qui peut aussi voilà, faire référence au Bataclan. Enfin, Delerm a fait beaucoup de concerts au Bataclan. Je pense que forcément c'était dans un coin de sa tête. Donc il y a tout ça chez Delerm. Et au-delà de ça, c'est quand même à la fois un mélodiste, je trouve moi assez prodigieux. Et quelqu'un, encore une fois, qui invente de la chanson française d'aujourd'hui qui ne ressemble à personne d'autre. Maintenant, je vais laisser Sophie parler, parce que ça fait quand même, c'est sa première. Et c'est
bah oui, mais justement, mais non, mais c'est pour qu'elle reprenne son souffle, sa place devant ce micro et qu'elle nous dise ce qu'elle a ressenti et comment elle a perçu cet album de Vincent Delerm.
Non, mais les beaux mots de Christophe me touchent particulièrement parce que, pour le coup, contrairement à lui, je l'aime beaucoup depuis le premier album que j'avais acheté comme tout le monde. J'étais très amoureuse, je connaissais Fanny Ardant par cœur. Kensington Square, pareil, m'a beaucoup touchée. Puis après, je l'ai un petit peu perdu. Je l'aimais toujours énormément en live, parce qu'il faut quand même le dire, Vincent Delerm en live, c'est un bonheur absolu.
Bon, là, il y a 18 000 dates à venir, j'en sais quelques-unes tout à l'heure, ça commencera au mois de novembre. L'immense tournée.
C'est un vrai comédien, c'est-à-dire qu'il peut faire rire, deux secondes après nous donner envie de pleurer. Et là, ce sont des qualités que j'ai retrouvées véritablement sur cet album. Pour moi, c'est vraiment le grand retour de Vincent Delerm, en tout cas dans mon cœur, ce qui est déjà pas mal. Et oui, il y a quelque chose d'à la fois, enfin d'assez paradoxal dans cet album, quelque chose porté sur la vie, bien sûr, quand il chante dans le présent « Nous sommes la vie ce soir », qui répond d'ailleurs à la chanson « Je ne veux pas mourir ce soir ». Évidemment, il y a des références à l'actualité, mais aussi à plein d'autres choses, tout le climat anxiogène qui nous entoure. Et à côté, sa vie intime, qu'il partage avec nous, peut évidemment avoir des petits côtés plombants. Vous le dites avec le garçon, que ça vous émeut.
C'est pas plombant d'être ému, c'est bien, c'est bien d'être
ému. Non, mais
ému.
Ça peut... Voilà, parfois, un petit peu déprimé. Moi, par exemple, la chanson « La dernière fois que je t'ai vue », qui est une merveille, c'est-à-dire que, clairement, c'est du Podane, c'est du Michel Legrand. D'ailleurs, moi, j'entends pas mal de Michel Legrand dans cet album. C'est très, très pop. Et le récit, parce que là, c'est un choix de sa part de pas vraiment chanter sur cette chanson. Et c'est là où on voit la différence quand il chante et quand il parle. C'est un chanteur de l'herbe. Et le texte est dédié à son grand-père décédé. Et il évite le pathos, toujours. Donc sur cette mélodie très, voilà, comme j'ai dit, très podane, très pastel, vient ce texte très simple, très limpide et qui nous touche directement. Et ne fût-ce que l'ouverture de l'album, La vie devant soi, qui est 1 minute 50 de pop, limite atmosphérique, très belle, très bien arrangée, effectivement. Clément Ducol et Maxime Le Guil sont très, très talentueux et très à l'écoute de Delerm. Et une fois encore, ce que je retrouve aussi chez lui, c'est le fait que, contrairement à d'autres chanteurs français, il n'a pas ce besoin d'être un peu rockstar, d'être un peu de balancer des paillettes. Il assume tout à fait son amour des vieilles dentelles, de la poussière des cabarets un peu abandonnée. Il cherche pas à être quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. C'est pas quelqu'un qui va se produire dans une scène où tout le monde est debout. Lui, il aime bien que les gens soient assis et savourent. Et cet album se savoure chez soi, assis ou bon, peut-être debout, mais en tout cas, c'est un subtil mélange de pop et de chansons qui touche, tout en n'étant pas trop non plus imposant du point de vue affectif et ressenti.
Bon, bah, quelle belle défense, hein. Alors, on va entendre ce qu'en a pensé Lucille Comeau. Vous l'avez écouté, Lucille, mais il faut que je vous avoue que je n'avais jamais écouté sérieusement Vincent Delerm. Mais que, attention, grâce à vous, j'ai pris le temps et effectivement, j'ai découvert une très belle écriture, très précise, très fine, parce que ce sont des chansons qui ont l'air de rien. Enfin, si on les écoute d'un peu loin, comme ça, c'était mon cas depuis 15 ans, j'écoutais Vincent Delerm de loin. Et en fait, il y a quand même des choses très fines, très précises, et de la même façon dans le travail mélodique, musical, et ici des arrangements qui sont quand même là aussi d'une très grande finesse, d'une grande justesse. Enfin, ça vaut effectivement bien le coup de l'écouter aussi au casque, assis chez soi, pour en saisir les subtilités. Donc pour moi, c'est une belle surprise, parce qu'effectivement, certes, c'est intime, mais ce qui est vraiment intime touche beaucoup de gens, on le sait, et c'est vraiment, c'en est la preuve dans cet album-là.
Je pense que la perception de Delerm aussi a changé avec le temps, lui-même a changé dans sa manière d'écrire, parce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs registres d'écriture, et il en avait une, notamment, qui était peut-être prédominante sur les autres, c'était la chanson un peu ragtime avec du name dropping. Bon, ça, c'est un peu une marque de fabrique, ça a commencé avec Fanny Ardant, il en a fait plein comme ça, mais ça fait trois albums, au moins, où les gens qui sont cités sont soit cités vraiment pour... soit c'est des gens pas connus du tout, comme là, Vincent Schmitt, soit c'est des gens connus, mais qui en un seul mot, voilà, définissent tout,
des non-fonctions.
Voilà, c'est jamais du name-dropping facile. Mais ça a été un défaut, c'est vrai, à un moment, lui-même l'a reconnu, et sa manière de chanter aussi a changé. Et sa manière d'arranger les morceaux a pas tellement changé, parce que si on écoute Kensington Square ou un album, moi, que j'adore, qui est 15 chansons, il y a déjà cette veine-là, évidemment. Mais la différence de Delerme sur les deux derniers albums, c'est qu'avant, il faisait beaucoup de chansons qui étaient des chansons concept. C'est-à-dire qu'il faisait une chanson sur Martin Parr. On voyait Martin Parr, on voyait l'album qui se tournait devant nos yeux. C'était assez prodigieux, mais il y avait des choses comme ça qui étaient vraiment des concepts de chansons. Ce qui fait plus tellement aujourd'hui. Parce que je pense qu'il a aussi grandi, qu'il a beaucoup fait ça et donc du coup, bah, il a plus besoin de le faire. Et là où il est très fort, c'est qu'il arrive à cette énergie vitale qui est un truc qui est dans sa musique depuis toujours, l'histoire d'être en vie, de tout ça, c'est quelque chose qu'il questionne. Il a 40 ans, on va dire que c'est le moment où on se pose ce genre de questions. Et la question de la chanson sur l'hôpital, par exemple, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Il y a une chanson qui s'appelait Ambroise Paré sur les piqûres d'araignée, qui était déjà une chanson d'hôpital. C'est quelque chose... Enfin, personne ne fait des chansons sur les gens qui sont à l'hôpital. C'est quand même le sujet plombant. Et il arrive à faire quelque chose de lumineux et de gracieux avec le sujet peut-être le plus tabou qui soit, qui est la mort d'un proche. Et ça, je trouve que quelqu'un qui arrive à faire ça dans la chanson française, bah, au final, ça peut être que un très grand. Personne ne peut faire ça. Si c'est un tocard, tout de suite, ça fait pathos, etc. Donc, ces chansons d'hôpital, on va dire, sont peut-être le symbole même de la, du, je vais employer un grand mot, mais du génie de Delerme sur la façon dont il a de saisir un moment sans nous prendre en otage.
Et puis, il y a de l'autodérision aussi, je trouve, justement, qui rajoute à son charme. Le duo avec Biolay, c'est vraiment, on se moque de nous-mêmes, tout en faisant quand même une très belle chanson, remarquablement arrangée, les voix se complètent parfaitement, et ils ont d'ailleurs tous les deux tenu à chanter ensemble la salle de concert de Boulogne-sur-Mer, comme une espèce de d'emblème des petites salles où ils ont pu jouer, où ils jouent parfois encore. Et oui, c'est ce mélange de légèreté et de gravité est particulièrement intéressant chez lui.
Bon, est-ce qu'on va avoir une note discordante, Lucille Como ?
Moi, je trouve qu'à la première écoute, il y a quand même quelque chose qui existe chez lui depuis longtemps, mais qui est quand même assez énervant dans sa manière d'écrire, qui se révèle assez au contraire profond. Mais je pense que, premier abord, cette manière de toujours écrire par petites touches, par petites images, diaporamas. Bon, il sort aussi un album de photos, apparemment plusieurs albums de photos, donc c'est lié à son regard de photographe. Mais il y a quelque chose d'extrêmement systématique comme ça, à écrire par petites touches, une petite image, puis j'en rajoute une, puis j'en rajoute une. Bon, de fait, c'est vrai que au final, quand on écoute davantage, ça prend une sorte de mélancolie profonde qui est très belle. Et moi, sur les arrangements et sur la musique, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé et que je trouve vraiment bien fait, c'est l'utilisation des cuivres, parce que c'est pas très facile, surtout avec la voix qu'il a, d'utiliser des cuivres, et notamment sur le premier titre, La vie devant soi, ou alors c'est dans le décor, je me souviens pas si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est très très lointain la manière dont il utilise une section cuivre, et ça plombe pas, justement, comme disait Christophe, ça ne plombe pas, ça reste une tristesse légère, ça c'est quand même bien fait.
Bon, concert de louanges hein, pour Vincent Delerme. Alors concert, hein, je vais pas donner la liste, hein, mais je pourrais citer les petites salles justement, ou les salles peut-être moins connues. Ça va commencer le 10 novembre à Poissy, en tout cas au théâtre. Il sera ensuite à Moucron, en Belgique. Bon, il faut quand même annoncer les Cigales, d'abord, à Paris, 28, 29, 30 novembre. Dire qu'il ira aussi voir nos camarades suisses à Genève, à l'Alhambra, qu'il ira à Anglette, par exemple, qu'il ira à Sifour, qu'il ira à Pithiviers, à Bayeux, à Saint-Jacques-de-la-Lande, ça a l'air libre, c'est une grande et belle salle, à Vannes, Châlons-en-Champagne. Et puis, alors, il y a un retour à Paris en avril, 4, 5, 6, 7 avril, carrément à la Philharmonie. Donc là, ce sera quelque chose d'assez particulier, puisque ce seront des concerts qui seront aussi présentés comme des créations photos, puisqu'il y aura le travail qui est donc édité par Actes Sud, trois albums qui sortent aussi là tout de suite, qui s'appellent L'été sans fin, Songwriting, et c'est un lieu qui existe encore. Ces trois albums de photos, bah, ils feront partie de la création qui sera à la Philharmonie de Paris. Puis il y aura encore d'autres dates à Florange, tiens, le 28 avril, à Sébazat, le 3 mai, La Souterraine, on aime bien cet endroit-là, le 5 mai, à Porte-les-Valences. Ça finira à Saint-Marcelin, et Festival Barbara, le 20 mai 2017.
Du bon fromage en perspective, voilà, pour le concert de Vincent Delerme.
Critique culinaire également, Sophie Rosemont, je le note pour le jour où nous ferons notre dispute lifestyle. L'album de Vincent Delerme s'appelle « À présent », il est donc paru chez Tôt ou Tard.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Vanishing Twin et de Bon Iver, ou Bon Hiver, Bon Hiver, hein, puisque c'est de là que s'origine ce nom, en bon français. Pour l'heure, le petit salon de Lucille Como. Et ce soir, une soirée justement à laquelle vous n'étiez pas invité, et moi non plus.
On n'était pas
j'allais le dire, et on est tellement.
Peut-être que Sophie et Christophe. Sophie et Christophe,
bien sûr, ils sont dans les VIP, mais nous, on est tellement frustrés. Attention.
La semaine dernière a rouvert la salle Pleyel. Il y a donc eu une soirée cise dans le 8e arrondissement de Paris. Elle était dédiée depuis son ouverture en 1927 à la musique classique. Avec le projet d'ouverture de la Philharmonie de Paris, Pleyel a été mis sur le marché et l'appel d'offres spécifiait l'interdiction d'y programmer du classique pour ne pas marcher sur les plates-bandes de la nouvelle salle parisienne. Le rachat de la salle a été long, freiné par plusieurs procès, notamment intenté à l'ancien propriétaire par son ancienne femme, qui notamment contestait cette fameuse clause selon laquelle le classique n'aurait plus droit de citer à Pleyel. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, puisque circule une pétition sur internet pour le retour du classique à Pleyel, qui a recueilli aujourd'hui plus de 11 000 signatures. Mais ça paraît bien compromis ce retour du classique. En 2014, c'est la société Fimalac qui a finalement acquis le lieu. Et Fimalac, c'est une des plus grosses sociétés de divertissement français, qui possède des dizaines de salles à Paris et surtout plusieurs zéniths et stades en province. Fimalac est aussi présent au capital de plusieurs sociétés de production, notamment celle qui produit Benjamin Biolay. Pleyel a donc ouvert avec un concert de Benjamin Biolay et a révélé une programmation dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est éclectique. Alors en musique, dans les mois qui viennent, quelques exemples, Patrick Bruel, Brian Wilson, Nora Jones, Juliette Gréco, mais aussi du jazz, de la musique dite expérimentale, de la danse, on va de Pietra Gala au Ballet de Milan, du théâtre, Isabelle Huppert, Lissade, des one-man shows, Patrick Timsit également, produit par une société dans laquelle Fimalac a des intérêts. La salle a été entièrement rénovée pour les musiques actuelles et peut accueillir de 2000 à 2500 spectateurs selon si on y est assis ou debout. C'est exactement la même jauge que l'Olympia par exemple. Et de nombreux journaux relaient ces derniers jours une certaine inquiétude sur la recomposition du paysage des salles parisiennes. D'autant que l'Élysée Montmartre, qui avait fermé pour travaux après un gros incendie en 2011, vient de rouvrir avec une programmation qui, si elle conserve ses racines dans le rock, est tout de même très éclectique aussi. De la chanson populaire, Christophe Maé, de l'électro aussi, Crystal Castles par exemple, ou Petit Biscuit. Ah. Le Bataclan va aussi rouvrir, bien sûr, en novembre. Il y a aussi un nouveau lieu qui s'appelle le Flow, qui ouvre sous le pont Alexandre III et qui propose une programmation en musiques actuelles assez comparable. Toutes ces salles sont donc flambant neuves, rivalisent de qualité acoustique et leurs programmations ne sont pas si différentes. Benjamin Biolay, par exemple, est aussi programmé dans quelques semaines à l'Élysée Montmartre. Alors, cette nouvelle géographie des salles parisiennes est-elle lisible et cohérente?
Question. Vous n'étiez pas invité donc à la soirée de l'ouverture.
Vous êtes allés ensemble avec Benjamin Biolay, oui, mais on ne savait pas que c'était l'ouverture au départ.
Oui, un concert comme un autre. Oui.
Non, mais pareil. Ça semblait être le meilleur concert Benjamin Biolay du monde.
Oui, alors déjà, c'était un très bon concert, mais pour ce qui est de la salle, autant je me souviens très bien de la réouverture de l'Olympia, où quand on est arrivé, on se disait, oh là là, mais tout a changé, ils avaient même déplacé la scène. Autant Pleyel, c'est pas flagrant du tout. C'est-à-dire que c'est toujours aussi moche à l'intérieur. Enfin, ça
ressemble. Les balcons sont toujours aussi compliqués.
Voilà. Alors, ils ont dû changer quelque chose à l'acoustique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir une fosse. On peut enlever les sièges, donc ça permet une jauge plus importante et aussi peut-être des concerts un peu plus, voilà, un peu plus rock. Moi, j'ignorais totalement qu'on
là, pouvait. Là, c'était assis, Benjamin Biolay?
Non, il y avait une partie debout. Ah, il y avait une partie, et puis une partie assise aussi. Mmh. Après, oui, sur le lieu lui-même, voilà, le hall et tout ça, rien n'a changé. Après, l'acoustique, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une salle assez froide, assez clinique, un peu métallique. Là, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu mieux, effectivement.
Mais je crois qu'ils ont vraiment tout changé, hein, en termes d'acoustique. Hein. À ce que j'ai lu, il y a eu quand même des énormes aménagements, parce que l'acoustique convenait absolument pas.
Enfin, c'est vrai qu'on a vu des concerts là-bas qui étaient catastrophiques à cause de
l'acoustique.
Moi, je me souviens d'un concert de John Cale, Paris 1919, où le son était horrible, malgré la présence de cordes, etc. Mmh. Ça sonnait pas du tout. Moi, je suis jamais allé voir de concert classique à Playel, mais bon, la seule fois où j'ai vu des concerts vraiment à bluffant, c'était quelqu'un piano-voix comme Rufus Wainwright, par exemple, où là, l'acoustique était faite pour ça. Mais là, ça a l'air pas mal. Biolay, on avait eu un peu peur au début. Hein. Le début du concert, c'était un peu
gros
bizarre.
Gros problème de voix, gros problème d'équilibre. Hein,
d'équilibre entre la voix et les instruments. Mais après, ça sonnait très bien. Oui,
ah, mais sur cette offre pléthorique, alors, Sophie Rosemont, réouverture de l'Élysée-Montmartre, réouverture du Bataclan à venir. Alors, sous le pont Alexandre III, c'est une reconversion. C'était l'ancien, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais
c'était une boîte de nuit qui a eu plein de noms différents, effectivement. Ouais. Oui, le Flow, je crois que d'ailleurs, là, ils ont commencé déjà à programmer des concerts comme Suzanne Vega.
C'est là qu'on avait vu la première fois Amy Winehouse, sauf erreur, il y a quelques années.
C'était pas à Bobino, moi je l'avais vu à Bobino.
Ah bon, bah alors, quelle était la vraie première? Ah bon, Sophie, pardon.
Mais pas de problème, hein, mais en tout cas, Biolay, c'est sûr qu'il joue dans les deux salles, mais c'est pas. Concernant Biolay, c'est pas très choquant parce que d'un côté, il a cet aspect assez populaire. Il suffit de voir que le monde qu'il y avait à ce concert, l'espèce de ferveur qu'il soulève. Et à la fois, il a quand même encore un côté rock, un peu branché, donc qui justifie sa présence à l'Élysée-Montmartre. Il me semble quand même qu'entre l'Élysée-Montmartre et le Playel, il y a une assez grande différence parce qu'il y a quand même Ugliki Joe qui va passer à l'Élysée-Montmartre, qui passerait jamais à Playel. Ensuite, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle que Patricia Cass passe à la salle Playel? Bon, est-ce qu'on n'est peut-être pas forcément obligé de répondre? Je pense que là, il y a un petit côté fourre-tout, il y a aussi un côté financier où il faut faire rentrer des sous beaucoup et très vite, même si la moquette, à mon avis, n'a pas été refaite. C'est limite si on ne pouvait pas voir les trous de cigarettes qui dataient d'il y a 6 mois. Donc là, oui, de ce point de vue-là, moi, j'étais assez déçue. En y allant vendredi, effectivement, je n'avais pas saisi que c'était la réouverture. Je crois qu'on l'a su tout devant. Et une fois à l'intérieur, bah, les petites lumières dans nos yeux se sont éteintes. Parce que franchement, il n'y avait vraiment rien d'incroyable, y compris même le placement. Effectivement, il y a ces rangs, on peut se lever. Mais à voir dans les prochains temps, quant à Isabelle Huppert qui lissade. Bon, à titre personnel, je suis une grande fan d'Isabelle Huppert. Hein. Elle peut aller dans
le dernier. Elle l'a fait plusieurs fois. Elle l'a fait dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. C'était bon.
Là, ça serait pas la même chose.
Qu'elle tourne depuis plusieurs années déjà.
Ce qui me paraît un peu étrange, c'est Playel. C'est quand même tellement une tradition classique. Voilà, l'endroit où elle est située, c'est pas vraiment un quartier où on est habitué à aller aux concerts de rock. Donc je sais pas si la mayonnaise peut prendre. Et puis d'autre part, effectivement, l'offre va peut-être devenir trop pléthorique par rapport au budget aussi que les gens peuvent mettre dans les concerts. Parce que si on prend toutes les salles parisiennes, les petites, les grandes, et le prix des places qui augmente au fur et à mesure.
Ça fait combien de concerts chaque soir possible? C'est
moi,
énorme.
Moi, je suis allé voir Ennio Morricone au Palais des Congrès. Il y avait des places quand même à 220 euros. Qui peut mettre 220 euros? Alors certes, ça touche un public peut-être un peu plus fortuné, mais enfin, aujourd'hui, les places de concert sont quand même très chères, y compris lorsqu'on va dans des lieux qui sentent la bière tiède et où on en est à 15-20 euros. Donc, si toutes ces salles-là qui se rénovent font payer aux spectateurs le prix de leur rénovation, ça risque d'être quand même un peu problématique et on va se retrouver avec des salles à moitié vides.
Mais si on fait des comparaisons, si on parle de Londres et des identités des salles de concert londoniennes, est-ce qu'à Paris, il n'y a pas une sorte de brouillage aussi, de ne pas savoir très bien quelle salle va programmer quel type de musique? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir des programmations peut-être un peu plus resserrées pour dire, bon, à l'Élysée-Montmartre, on va avoir quand même tel type de musique globalement?
Mais après, c'est même le rapport des Français à la musique qui est questionné, qui n'a aucun rapport avec le rapport des Anglais à la musique. Quand on va dans un concert en Angleterre, même en entendant que le live commence, les gens chantent sur les chansons qui passent. Donc il y a un vrai enthousiasme et on voit tout de suite quand par exemple, je sais pas, un des frères Gallagher passe à Paris et donc la moitié de la salle est anglaise, ça n'a aucun rapport. C'est vrai que cette espèce de passion qu'on a du point de vue des sur les frontières génériques n'a pas vraiment cours en France.
Moi, j'ai l'impression qu'on peut comparer l'inflation des salles de concert avec l'inflation des disquaires. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de disquaires à Paris. Des disquaires. Bon, on est assez ancien, vieux pour se souvenir que dans les années 80 ou 70, il n'y avait pas autant de disquaires à Paris.
Aujourd'hui, après, on les a vu fermer.
Voilà. Et contrairement à une idée reçue, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Et est-ce qu'ils arrivent à survivre s'il n'y avait pas le calife et tout ça? Et là, c'est un peu pareil. Est-ce que ces salles sont pas sous perfusion pour certaines? Est-ce que, au bout d'un moment, il va forcément y avoir des dégâts dans l'histoire? Parce qu'il y a des salles qui vont être obligées soit de changer complètement radicalement de programmation, soit de fermer. Parce que, voilà, il y a encore beaucoup de salles moyennes, petites, pas terrible, faut bien le dire, hein. Vous allez avoir un concert l'espace éphémère, point éphémère, c'est pas très agréable. Enfin, même si le lieu est marrant, mais la salle, elle est quand même assez difficile. Enfin, donc, au bout d'un moment, mais il y a aussi une offre musicale très large, donc on peut se dire que petit à petit, tout ça va se réguler et chaque salle va peut-être avoir une programmation en fonction de son.
Ce serait pas mal. Dernier mot, Lucille Comeau.
Non, juste pour conclure, Aurélien Binder, le directeur du coup de la nouvelle salle Player, je sais même pas d'ailleurs si ça se prononce Binder, mais bon, ça s'écrit B-L-I-N-D-E-R, disait disait en parlant de sa programmation, il n'y a aucun sens à faire Booba à Pleyel. Mais alors,
ah bon,
pourquoi? Enfin,
on ne sait jamais.
Il y a un sens à faire.
Il
ne
faut jamais
Goel,
dire jamais. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, Wilson n'est toujours pas complet. Je tiens.
C'est vrai.
Non. C'est dans un mois, mais 70 euros minimum la place. Et on ne sait pas si jamais il ne prend pas assez bonnes pilules au bon moment, qu'est-ce que ça peut donner. Bah, les gens, c'est 70 euros minimum. Ouais. Ça va jusqu'à 150.
D'accord. Bon, il reste des places.
Non, mais voilà, je me demandais si justement les musiques urbaines, ce n'était pas le seul truc qui résistait dans ces salles-là, quoi. La seule chose qui ne sont pas vraiment programmées, ni à l'Élysée Montmartre, ni à Pleyel.
Voilà, mais il va au Zénith, Booba.
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas tellement envie de faire des concerts devant la moitié, enfin, des salles de gens à moitié assis, je ne pense pas.
Ils préfèrent faire un, comment on appelle ça, le truc Arena maintenant.
Accor Arena.
Plutôt que 14 Pleyel. Bon. Sortons de ce petit salon. Et disputons-nous à présent sur le disque d'un tout jeune groupe, Vanishing Twin, formé l'an dernier autour de la Britannique Katie Lucas, qui opérait auparavant sous le nom d'Orlando. L'album s'intitule Choose Your Own Adventure. Il paraît chez Soundway Records. On écoute, en guise d'extrait également, The Conversation of Energy. Thank you.
bodies collide and the energy keeps. Waits for release like the waves of a frozen sea.
Vanishing Twin, voilà pour cet album qui sort donc chez Soundway Records. Sophie Rosemont, pour commencer.
Eh bien, Vanishing Twin, c'est vraiment une espèce de trip. Ça va être le trip de cet automne. Donc, c'est le projet de Cathy Lucas qui est en gros une espèce d'égérie de la scène arty, hipster, tout ce qu'on veut, londonienne, qui était avant dans un groupe de indie pop qui s'appelait Fanfarlo. Et ensuite, elle a décidé de se lancer dans son propre projet, qui à la base s'appelait Orlando, et qu'elle a transformé en Vanishing Twin. Pourquoi ? Parce que dans le In Utero, elle avait une jumelle qui a disparu suite à ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais en tout cas, il y avait, y avait deux bébés.
Si on fait une dispute médicale, je vous appellerai. Bon.
Voilà, deux bébés, il n'y en a plus qu'un. Donc évidemment, elle a traîné cette espèce de trauma. Elle aurait tellement voulu avoir une sœur. Bref, elle lui... Comment dire, lui dédie cet album. Donc, c'est un album qui est sur l'altérité, qui parle beaucoup d'eau, normal, in utero, liquide amniotique. Donc là, vous pouvez avoir très peur, dire qu'est-ce que c'est que ça, mais non, ça reste pop, ça reste très
coloré. Heureusement qu'on a entendu le morceau avant que vous en parliez, parce que là, voilà, on a entendu
très mélodique.
Ça pétille.
Je commence par le moins attrayant. Ouais. Et puis elle s'est entourée quand même de super musiciens, donc de Valentina Magaletti, une batteuse qui a tourné pas mal à Londres, du bassiste japonais qui s'appelle Susumu Mukai, et d'un artiste plasticien londonien qui s'appelle Elliot Arndt, qui lui aussi veille à faire des vidéos, mais qui sont improbables, très drôles, où tout le monde est déguisé, fait n'importe quoi avec des miroirs, des grenouilles, des mains teintées de rouge. Et ça fait du bien, parce que je trouve ça un peu fou. Ce côté insolite me plaît beaucoup. Évidemment, les morceaux ne sont... C'est pas un fourre-tout, c'est pas foutraque. C'est quand même extrêmement construit. Comme on vient d'entendre, l'instrumentation est assez sophistiquée. Il y a un côté très 70s. Sur certains chansons, certains morceaux, c'est même assez étonnant. On croirait entendre Nico. Vraiment, deux ou trois titres, j'avais vraiment l'impression d'entendre Nico. Et ça passe aussi bien. On peut entendre des lointains échos des Kings, évidemment beaucoup d'échos du Velvet. Mais elle confectionne son propre son et avec des textes remarquablement bien écrits. Ça va droit au but, c'est assez poétique sans être trop complexe, c'est toujours métaphorique, donc je l'ai dit, l'eau, l'altérité. Et oui, c'est un album qui est très séduisant, assez indie, pas forcément accessible parce que le premier morceau dure 8 minutes, mais après on a quand même des formats pop comme le titre
comme qu'on vient d'entendre, qui est sans doute d'ailleurs le plus, on va dire, accessible,
plus
accrocheur, mais que j'aime beaucoup par ailleurs. Enfin, j'y reviendrai. Christophe Comte.
Alors je me suis rendu compte hier en écoutant cet album et en voyant passer sur Facebook un post d'un camarade à moi qu'on a célébré malheureusement cette triste chose qui était l'anniversaire posthume de Trish Kinnan, qui était la chanteuse de Broadcast. Et pendant que j'étais en train d'écouter ce disque, me rappeler de Broadcast, c'est évidemment le groupe auquel Vanishing Twin fait le plus référence, mais par... Escalier remonte aussi à Stereolab et à toute une tradition anglaise qui est née de ce... Nous, on a eu le GRM en France et eux, les Anglais, ont eu le BBC Radiophonic Workshop qui était un équivalent du GRM, qui était une sorte d'atelier de son dans lequel... Contrairement à la France, c'est distingué, avait une distinction particulière qui était qu'il y avait beaucoup de femmes, en fait, qui expérimentaient avec des premiers synthés, des bandes, etc. Il y avait notamment Daphne Oram, Delia Debitshire, qui étaient vraiment, qui sont aujourd'hui considérés comme l'équivalent de nos Pierre-Henri, Pierre Schaeffer, etc. Et peut-être avec, alors c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais cette touche féminine qui n'avait pas nos camarades de la musique concrète.
Et une touche anglaise,
plus pop, c'est vrai que du BBC Radiophonic Workshop est né le générique de Dr. Who, de plein de choses, qui a beaucoup inspiré toute la scène psychédélique, etc. Et dans les années 70, il y a eu même Pink Floyd, Dark Side of the Moon était directement inspiré des sons de la BBC de l'époque. Ceci pour dire qu'il y a une tradition anglaise,
un vrai héritage, une lignée,
d'une espèce de musique électronique pionnière mélangée à la pop et mélangée à un autre genre de musique très particulier qu'on entend vraiment sur ce disque de manière assez flagrante, qui est toute la scène exotica des Squivel, Martin Denis, tous ces gens dans les années 50-60 qui ont fait ce qu'on a appelé la space music, qui était un peu la musique écoutée les Anglais, les Américains quand ils prenaient l'apéro au bord d'une piscine. Et dans des décors un peu comme mon oncle Tati, où ça ressemblait
On retrouve Martine Parr là.
Et voilà. Et donc il y avait cette musique qui était une musique easy listening, mais inspirée par une sorte d'exotisme, de pacotille, par des gens qui n'étaient jamais allés, évidemment, dans les endroits qu'ils prétendaient recréer, mais qui est une musique extrêmement charmante qu'on a vu revenir à la surface il y a quelques années, comme ça, à travers Esquivel, Martin Denis, Les Baxter, tous ces gens. Et on retrouve vraiment ça. Il y a des morceaux, il y a des plages entières où on retrouve cette inspiration-là, qui était une sorte de musique exotique, mais en formica, en fait. Et mélangée à ce côté pop on va dire un peu expérimental, très 60s, ça donne un disque qui évidemment n'est pas nouveau, parce que si on n'avait pas entendu Broadcast ou Stereolab avant, on pourrait dire oh là là, c'est incroyable, c'est une musique totalement novatrice. Mais il se trouve que ça, et c'est moi qui ai proposé ce disque,
Je vous en remercie,
et je le trouve vraiment remarquable, parce que dans la profusion de sorties de la rentrée, je trouve que c'est un disque, moi, la première fois que je l'ai mis, j'étais assez saisi par à la fois l'écriture, mais aussi tout ce qui est la production, l'atmosphère, etc. J'ai trouvé ça très référencé, mais à la fois extrêmement bien agencé, parce qu'après on sait très bien que la pop contemporaine n'est qu'un réagencement finalement de choses qui ont déjà existé, et parfois le réagencement ressemble à rien, et d'autres fois il ressemble à quelque chose d'assez magique, comme disait Sophie, une sorte de trip assez que je trouve, moi, particulièrement réussi.
Réussi, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de disques très et trop référencés. Alors, si celui-là l'est, d'abord, les références, vous avez fait un magnifique historique, elles sont déjà nombreuses, et que je crois que Cathy Lucas amène une singularité, c'est-à-dire qu'elle réagence, je crois que ça passe vraiment par elle, et que même s'il y a une sorte de légèreté apparente, je trouve que c'est un disque assez inquiétant, en fait, et je trouve qu'il a une vraie profondeur, qu'il suscite plein d'émotions à l'écoute. Moi, j'ai adhéré tout de suite aussi à ce disque, dont les plages sont quand même assez différentes, c'est pas dans tous les sens, mais il y a quand même beaucoup de variations dans cet album, et
je trouve qu'il y a le titre le dit lui-même,
choisissez votre propre aventure selon la plage. Mais c'est vrai qu'on a des émotions quand même assez assez profondes, je trouve, à l'écoute de cet album, Sophie.
Oui, il y a quelque chose d'ésotérie, presque, en tout cas beaucoup de spiritualité, je trouve,
sans être plombant, là, pour revenir au côté plombant des possibles.
Là c'est vraiment
Oui, il faut pas écouter trop près les paroles si on est un peu anti-mystique.
Oui, là, en l'occurrence, ne fût-ce qu'une chanson comme Eggs ou Under the Water, c'est vraiment des titres qui exploitent toute cette espèce de mysticisme. Les délais, on part en Inde, on mange plus rien pendant 3 mois, etc. Enfin, c'est vraiment, mais tout en étant très sincère et très, très relié au contemporain. Cathy Lucas l'est, et elle utilise aussi les instruments d'aujourd'hui, les méthodes de mixage d'aujourd'hui. Donc c'est ce en quoi je pense que ce disque est assez fort, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose d'assez rétro et que c'est multi-référentiel, 60, 70, même remonter plus loin comme disait Christophe, des références très anglaises mais aussi américaines, elle arrive à en faire un condensé très digeste, et finalement, même s'il est mélancolique, assez ludique.
Voilà, il y a ces deux aspects-là, en effet, dans cet album. Alors, j'ai pas vu pour l'instant de date à venir.
Ils sont passés récemment.
C'est ça, ils sont passés au mois de septembre.
Avec un groupe qui peut être considéré comme peut-être leur maître absolu, sont les Silver Apples.
Ouais.
Même s'il n'y en a plus qu'un sur les deux, un duo absolument incroyable qui a quand même sorti à la fin des années 60 des disques qui auraient pu être enregistrés la semaine dernière, qui avaient pour le coup 40 ans d'avance sur tout le monde. Et donc, ils ont fait une date en commun dans un petit lieu. Alors qu'évidemment, dans un monde idéal, il jouerait pour la réouverture
de la salle Pleyel. Surveiller. Mais en tout cas, en attendant, il y a cet album qu'on vous recommande chaleureusement. Choose Your Own Adventure des Vanishing Twins. C'est chez Soundway Records.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième dispute de ce jeudi soir avec le retour de Bon Iver, Bon Iver, Bon, comme vous voulez, hein. C'est le groupe de Justin Vernon, le premier album autoproduit sorti en 2007 d'abord confidentiellement, puis en 2008 beaucoup moins, avait conquis la planète, on va dire ça comme ça. En 2011, rebelote avec l'album intitulé Bon Iver, Bon Iver. Donc le troisième album, évidemment très attendu. Le résultat est-il à la hauteur de l'attente? On va en parler après avoir écouté le morceau qui ouvre l'album, celui-là, 22 Over Soon. Voilà, 22 Over Soon, c'est le morceau qui ouvre ce nouvel album, le troisième de Bon Iver, Bon Iver. Sophie Rosemont.
Ah, ça commence par moi? Bon.
Bah oui, c'est comme ça, c'est votre première, vous avez deux fois l'ouverture.
Je suis très partagée, très partagée. Là, ça va mieux, ça y est, je me porte beaucoup mieux par rapport à cet album. Mais quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai d'abord été dubitative, ensuite très en colère. Ensuite, redubitative, et je me suis dit, je ne l'écoute plus
là,
pendant quelques jours.
Là,
ça va mieux.
Pourquoi ça va mieux, alors?
Eh bien, parce que je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, et que je pense que donc Justin Vernon, alias Bon Iver, a voulu faire un disque qui se mérite. Il a toujours eu ce petit côté-là, enfin, pas sur le premier, en effet, parce que le premier, il avait écrit après une grosse dépression, une grosse rupture amoureuse, donc sans penser forcément le sortir. Le deuxième avait des petits côtés... Je me méfie de toi public, ne m'aime pas trop, je vais te balancer deux ou trois morceaux à la Phil Collins pour que tu puisses me renier, me dire que je ne fais plus du folk minimal du Wisconsin. Mais il est resté très beau et il nous a refait encore une petite déprime. C'est ça aussi, c'est que Justin est un garçon fragile. Mmh. Donc une petite déprime, d'où cet album qui parle de son rapport à la célébrité, à l'autre, aux femmes, aux amis, qu'on perd, qu'on retrouve. Et au final, c'est très beau, les mélodies sont là. Mais alors pour y accéder... Moi, en tout cas, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Et même lorsque l'usage du vocodeur, au final, se justifie, bah, il y a une espèce de filtre, de voile qu'il faut écarter. Et en fait, c'est précisément ça qui me dérange. Mmh. Ce côté de, il faut que vous me méritiez, qu'il soit conscient ou pas, ne me plaît pas beaucoup. Et ça va, en fait, avec ce, ne fût-ce que les photos de presse. Évidemment, on est ici pour parler que de musique, mais c'est important. Et les photos de presse, ils se cachent. On ne le voit pas. Et l'explication qu'il a donnée, c'est pas à la limite une explication foireuse et d'esthétisme. Non, non. C'est, j'ai lu précisément dans une interview qu'il disait qu'il conservait, que pour lui, ses portraits n'étaient destinés qu'à ses amis. Mais donc, son auditeur ne peut pas être son ami. C'est, je veux bien la timidité, mais là, il y a vraiment, voilà, quelque chose, vous pouvez l'entendre, qui m'a dérangée. Et si j'enlève tout, et si là, je viens d'écouter ce titre, et j'étais séduite encore un petit peu plus. Mais c'est laborieux.
Mais qui va écouter 15 fois un album en entier pour en mériter la substantifique moelle dans ce monde où les chansons défilent, Christophe Comte?
C'est vrai qu'on peut se dire que c'est un challenge un peu impossible. En même temps, faut voir quand même que Bon Iver, c'est un peu un accident, parce que c'est quelqu'un qui, à l'origine, effectivement, a fait un disque dans un cabanon et qui est devenu une sorte de référence pour des gens aussi prestigieux que Kanye West, etc., qui vénèrent Bon Iver. Bon, et à contrario, lui-même, en ayant fréquenté Kanye West, en ayant fréquenté James Blake, s'est dit que faire du folk avec une guitare en bois, c'était pas suffisant, donc il fallait qu'il intègre un peu de cette production contemporaine à sa musique, à son songwriting. Et donc, on entend sur ce disque tout un tas de stimuli sonores, avec notamment de l'autotune, qui est quand même le truc actuel, puisqu'on un album dont on parlera peut-être une autre fois, qui est l'album de Lamp Shop, pour le coup, qui est autotuné du début à la fin, ce qui paraît complètement anachronique. Ouais. Mais bon, là, c'est un peu pareil. Et en même temps, on comprend pourquoi. On comprend qu'un type qui écrit des chansons à la guitare ou avec un groupe relativement classique, même s'il y a dans son groupe des gens comme Colin Stetson, etc., qui ne sont pas des musiciens vraiment orthodoxes, donc qui apportent quand même quelque chose, mais il a voulu faire un disque, on le voit d'ailleurs dans les titres totalement habitables, qui est une sorte de Aphex Twin.
Avec des typos illisibles, c'est
Aphex Twin qui rencontre Neil Young.
Mais vous l'avez vécu comment, l'écoute de cet album,
pareil,
Christophe?
C'est-à-dire que ça m'a agacé, alors au contraire de Sophie, moi je me dirais, ça m'a agacé pas plus que ça, parce qu'on est habitué à écouter ce genre de disque, ça me fait pas peur, hein. J'ai écouté l'intégrale d'Otecre une fois, vous savez, après ça on peut survivre à
c'est
tout,
sûr.
Mais là, en l'écoutant, je me suis dit, quel dommage, est-ce que finalement, et je me pose la question encore aujourd'hui, à deux exceptions près peut-être sur l'album, le morceau qu'on a entendu et puis un autre dont je serais incapable de vous dire le nom, je me demande si c'est pas un cache-misère cette histoire. Si finalement, les chansons n'étant pas terribles, en leur ajoutant des parasitages, est-ce que ça fait pas un peu genre, j'ai fait le disque un peu expérimentalo, machin, mais si on le dénude... Qu'est-ce qui reste?
Ah, c'est ça, hypothèse dure.
Voilà.
Pour Bon
Moi, je sais pas. J'ai encore du mal, après plusieurs écoutes, à me dire est-ce que finalement les chansons n'étaient pas si extraordinaires à la base et que d'une certaine manière la production, et aujourd'hui c'est très compliqué parce que quand on sort ce genre de disque, on sait très bien que la critique va dire ah oui mais génie machin, Kanye West il peut s'enregistrer en train de faire des P dans sa baignoire, il y aura toujours un mec qui va dire
c'est son prochain single, je crois.
Voilà. Et je parle même pas de PNL ou de ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est vrai que la production dans son ensemble qui fait référence à, disons, à la nouvelle scène R&B, on en a parlé il y a pas très longtemps avec Frank Ocean. C'est vrai que d'un coup, on a tendance à dire oui, c'est bien parce que c'est expérimental, c'est audacieux, c'est machin. À l'arrivée, tous ces gens-là ne sont pas non plus des révolutionnaires. Donc peut-être qu'à l'arrivée, Bon Iver a fait le disque un peu prétentieux du mec qui s'est acheté deux trois plugs pour son ordinateur et qui a trafiqué des chansons folk en quelque chose d'un peu mutant.
C'est la même démarche que Miley Cyrus.
Avec
son disque expérimental.
Oui, voilà, avec les Flaming Lips. Oui. Mais bon, elle au moins,
Non mais votre hypothèse. C'est peut-être un peu
je
ça,
sais
c'est
pas,
la,
après,
le vernis arty.
Le vernis arty, ça a toujours été un problème, il y a toujours eu des choses
comme
ça.
Je penche sur cette hypothèse, moi, franchement.
Et puis bon, moi j'ai réécouté du coup les anciens albums de Bon Iver et j'ai définitivement décidé que c'était pas non plus le génie dont on a parlé. Je pense qu'il y a
Le premier est quand même très très beau.
Oui, oui, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est sûr que c'est très bon.
Bon, et ben voilà qui est fait pour Bon Iver, 22 Million. Ça, le titre, on arrive à peu près à le lire. Je vous laisse découvrir la typo des morceaux sur l'album. Enfin, l'album qu'on n'a pas eu hein, parce qu'il sort que demain, donc on a que des liens. Enfin, il y a eu un son miraculeusement bon grâce à la technique ici à Radio France. Mais le disque de Bon Iver sortira donc demain. C'est chez Jacques Jaguar et Piass. Et un concert au Zénith. On serait curieux de voir ça avec cet album.
On est en plein
paradoxe.
On a très
peur là. On a
le 22 janvier prochain. Qu'est-ce qui se passera?
C'est le jour de mon anniversaire, je pense que je ne vais pas m'offrir ça. Comme
qu'est-ce qu'on peut vous offrir? On va peut-être se cotiser alors. On vous fait un anniversaire
lui, tout
surprise.
Seul sur une scène, avec sa grosse barbe et sa casquette, les yeux baissés, avec sa petite machine, ça va être compliqué hein, aux Zénith, ça va être très compliqué.
Écoutez, on pourrait faire un compte-rendu du concert. Hein. On se donne rendez-vous après le 22 janvier. Et nous concluons avec le jeu de la dispute en commençant par un rappel d'abord du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse, Lucille Como.
Alors voici la question. Un des précédents films de Gianfranco Rosi s'appelle El Sicario, chambre 164. Pourquoi chambre 164? Et la réponse est, le film est tourné dans une chambre d'hôtel.
Ouais, où il rencontrait ce tueur à gages des narcotrafiquants du Mexique. C'est un film extraordinaire qui sort pour la première fois plutôt en salle en France en même temps que Fukuhama est sorti. Ce soir, d'autres places de cinéma à gagner. Pour le film Dogs de Bogdan Mirica, sorti hier également. La question, Lucille.
Alors, Bogdan Mirica a été le scénariste il y a quelques années d'une comédie populaire roumaine sur le Père Noël, dont le titre n'a pas besoin d'être traduit. Quel est ce film?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Sophie Rosemont, Lucille Como et Christophe Comte. Merci à l'équipe de la dispute. Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de deux Elisabeth, Elisabeth Philippe et Elisabeth Franck Dumas. À notre affiche, double nationalité de Nina Yargekov chez POL, comme l'ombre qui s'en va d'Antonio Muñoz Molina au seuil. Et nous évoquerons aussi plus rapidement Histoire de Knut de Yoko Tawada et le motel du voyeur des gays. Talaisi. Tout cela, c'est pour demain. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction.